Bonsoir, vous écoutez bien l'émission Vendémiaire. L'émission de ce soir est consacrée à Elsa Triolet, la 11e du nombre, avec Maria Berlioz et Jean Knopf, les membres de l'association pour des amis de Elsa Triolet et Louis Aragon. Nous venons d'écouter un morceau qui s'intitule, vous l'avez sans doute reconnu, Que reste-t-il de nos amours, de Charles Trenet, interprété là en instrumental par c'est assez étonnant. Claude Luther et Boris Vian, c'est un enregistrement du 24 juillet 44, période justement à partir de laquelle nous allons ce soir évoquer le travail d'Elsa Triolet. Et puis ce titre un peu évocateur aussi de ce qui surdétermine toute cette période des années 44 à 49, c'est-à-dire une certaine déception après toutes les rêves qu'ont pu faire les résistants de ce qu'il en serait de l'après-guerre. Mais tout ça, c'est Jean et Maria qui vont vous le développer et je leur donne la parole.
Merci.
Bonsoir Jean-Pierre. Oui, effectivement, cette période, je pense aux images de télévision qu'on voit. La libération, les chars américains, De Gaulle qui remonte les Champs-Élysées, une période qui démarre quand même par de l'euphorie et justement l'œuvre d'Elsa. Donc il va nous conduire de 44 à la parution de l'inspecteur des ruines qui est 1948. Cette œuvre d'Elsa que l'on rencontre à travers trois romans. C'est vraiment une période de désenchantement et qui se traduit très fortement dans l'écriture. Alors qu'est-ce qu'il en est des faits? Si vous vous souvenez, on avait laissé Aragon et Elsa à Saint-Donat-sur-l'Herbasse, d'où ils organisaient dans la Drôme, d'où ils organisaient la résistance. Alors qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que si on prend les faits, Lyon est libéré le 3 septembre 1944 et Aragon et Elsa sont invités par Yves Farge. Yves Farge est commissaire de la République. C'est un homme qui est très proche des communistes et donc des FTP. Et ils sont invités le 14 septembre à une grande réception qui est donc organisée par Farge. Et c'est là qu'Aragon va rencontrer pour la première fois le général De Gaulle. Et on cite toujours ses paroles. De Gaulle lui aurait dit « Ah, vous voilà, vous !» Alors, et ensuite, ils vont remonter à Paris, où ils arrivent le 25 septembre 1944. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on remet un certain nombre de choses en ordre, le 4 septembre, donc, ils ne sont pas encore à Paris, est créé le Comité National des Écrivains, le CNE. Et ce comité, donc, institue une liste d'écrivains qui ont collaboré avec l'occupant. Et le 16 septembre, les lettres françaises, qui paraissent donc, enfin qui ne sont plus clandestines, mais donc qui paraissent, publie une liste des écrivains avec lesquels les signataires donc de la liste, les membres du CNE, refusent tout contact professionnel en raison de leur attitude sous l'occupation. Et alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que on a fait porter à Aragon en particulier la responsabilité d'avoir justement signalé un certain nombre de ces écrivains et de les avoir condamnés à l'indignité nationale. Et d'ailleurs Céline avait accusé Aragon d'être justement un procureur général. Et bon, c'est simplement pour dire qu'Aragon et Elsa, à qui on va faire porter le chapeau, en fait, n'y sont pour rien du tout, puisqu'ils n'arrivent à Paris, encore une fois, que le 25 septembre, alors que les choses sont déjà en marche. Cela dit, on verra par la suite, dans la prochaine émission, que dans ce comité national, ils vont jouer un rôle important, et notamment tout ce qui va tourner autour de la bataille du livre. Alors, revenons à ce thème du désenchantement et on va lire un texte où justement Elsa s'exprime sur ce retour à Paris et ça donne bien le ton, la musique de ce qu'elle va ressentir à son retour.
La libération. Nous l'avons vécue dans la Drôme et à Lyon et lorsque nous sommes rentrés chez nous, Paris était libre. On enlevait le bleu des lampes, les croix en papier des vitres et les lambeaux noirs des volets. Il y avait ici et là des fleurs au pied d'un mur où, lors des combats de rue, un Français était tombé d'une balle allemande ou française. Vinrent les jours où, à la gare d'Orsay, la foule se mit à attendre le retour des prisonniers ou, dans les rues, se mirent à déambuler des cadavres, les déportés. Un immense chambardement avant que toute chose ne reprenne sa place. Sa place, son adresse permanente, son nom, ses amis et même ses habitudes. On s'était déshabitué d'avoir des habitudes. Dans la rue, ne pas se retourner furtivement pour voir si on n'est pas suivi. Répondre quand on vous appelle par votre nom.
Voilà, ça c'est un des textes qu'Elsa écrit sur leur retour. Mais ça va être également, évidemment, les grandes retrouvailles avec la sœur d'Elsa, Lily, puisqu'il ne faut pas oublier que leur dernier rendez-vous, leur dernier voyage à Moscou, a eu lieu donc en 1936. Et donc après des années de silence, Elsa reprend contact avec Lily et dans une longue lettre du 1er février 1945, elle va résumer ses années de résistance. D'ailleurs, c'est une lettre qui est très longue, qu'on peut pas lire ici intégralement, mais où elle lui raconte, et c'est d'ailleurs un document important, puisque elle raconte assez fidèlement toutes leurs activités depuis le début de la guerre, et puis d'ailleurs la mobilisation d'Aragon depuis 1939. Alors, en voilà un extrait. Oui,
voilà. Oui, je voulais ajouter qu'Elsa lui dit combien il était important d'écrire pendant ces années-là. Oui. Nous écrivions énormément. S'il n'y avait pas eu l'écriture, je crois bien que je me serais donné la mort. Tellement, par moments, c'était dur et pénible. Je me suis prise de passion pour cette activité. Elle me remplace les amis, la jeunesse et bien d'autres choses encore qui manquent dans la vie. Je me suis déjà habituée à moi, non jeune. Je ne me chagrine pas. Tant pis pour la jeunesse. Elle n'a pas grand-chose de bon? Non, non plus.
Oui, ce qu'il y a de, je trouve ce qu'il y a d'intéressant dans cette déclaration, c'est combien, et je pense en opposition à quelqu'un comme René Char, par exemple, qui a complètement séparé son activité de poète et son activité de combattant. Hein, René Char a mis sa plume d'un côté et son fusil de l'autre, et on sait que physiquement c'était quelqu'un de très, très, très fort, très téméraire. Alors que justement, il y a chez Elsa, comme chez Aragon, il n'y a pas de séparation entre la lutte armée, enfin bon, ça n'a pas été c'était pas des kamikazes, mais enfin la lutte sur le terrain est justement le travail artistique. Et ça, je pense que c'est très important. Alors par ailleurs, de l'autre côté, parce que bon, Elsa, elle a aussi une vie en Russie, hein, de la famille en Russie. Donc sa mère est décédée pendant la guerre. Et puis donc à la fin de la guerre, il va y avoir un deuil important de quelqu'un qui leur est cher parce qu'ils sont proches de lui depuis longtemps. C'est le décès d'Ossip Brik, donc ce grand linguiste soviétique qui était le compagnon de Lily et qui va décéder subitement le 22 février 1945. Et Lily a vraiment une phrase quand elle évoque Ossip qui est une très très belle déclaration d'amour.
Pour moi, ce n'est pas un être proche, aimé, qui est mort. Quand on a une peine intolérable, mais tout simplement avec Ossia, je suis morte moi-même.
Voilà, ça c'est pour les événements familiaux, disons. Et maintenant, on va évoquer un autre phénomène qui est une distinction qui est, on en a parlé la semaine dernière, le premier accro coûte 200 francs, reçoit le prix Goncourt, le prix Goncourt en 1945 au titre de 1944. Et très curieusement, très paradoxalement, ce prix Goncourt qui devrait faire reconnaître Elsa aux yeux du monde littéraire, hein, c'est quand même une Russe qui écrit en français désormais. Et je pense que dans la liste des prix Goncourt, à cette époque, il ne devait pas être nombreux ceux qui avaient changé de langue depuis l'origine du Goncourt. Bon, ensuite, ça a été un peu différent. Et cette récompense va justement, paradoxalement, se retourner contre Elsa. Alors, c'est intéressant de parler un petit peu de ça. De notre ami, le trésorier de la Société Aragon, Elsa Triolet, Michel Ruchon, je le salue parce qu'il est dans la région parisienne, mais je sais qu'il nous écoute sur Internet. Il nous a envoyé il a fait une recherche sur le prix Goncourt, justement. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut, que je voudrais porter à la connaissance des auditeurs. C'est que depuis les années 30, les Goncourt sont quand même des gens qui penchent sérieusement à droite. Alors, il y a quelques noms qui certains, bon, évoqueront directement des gens connus. C'est en particulier celui de Sacha Guitry, hein, qui est élu en 1939. Et puis celui d'un autre écrivain qui a eu du succès, je pense que maintenant il est complètement tombé dans les oubliettes de l'histoire, mais il était quand même très lu, c'est un dénommé Jean de La Varande. Et je résiste pas, vous allez tout de suite le situer, à vous donner son nom complet, parce qu'il faut prendre son élan. Il s'appelait Jean Balthazar Marie Mallard de La Varande, Agis de Saint-Denis. Alors inutile de vous dire qu'il était très proche de l'Action française, monarchiste. C'était un écrivain normand qui avait pour thème ce retour aux valeurs, etc., la terre. Mais c'était vraiment un écrivain. On le trouve encore. Enfin bon, chez les bouquinistes, par exemple, il y a plein. On trouve plein de romans de La Varande. Voilà. Alors, c'est anecdotique, mais en 44, donc à la Libération, quatre membres de l'Académie sont exclus, dont effectivement les deux, Sacha Guitry, on sait les ennuis qu'il a eus à la Libération, et notamment de La Varande. Alors, du coup, il n'y a pas eu de prix Nobel, de prix Goncourt en 44. Et il a été décerné en 45. Il y a eu deux prix décernés. Celui de 45, c'est bon quelqu'un qui est décédé depuis longtemps maintenant, mais qui était bien connu, c'est Jean-Louis Borry, hein, le critique du cinéma, Le Masque et la Plume, etc., qui avait écrit un court roman qui s'appelait Mon village à l'heure allemande. Et donc pour le prix Goncourt 44, il est donc attribué, comme on l'a dit la dernière fois, à Elsa. Et il est en réalité attribué par 5 académiciens sur 10, parce que ceux qui ont été exclus n'ont pas été remplacés. Alors il y a des gens connus, il y a Roland Dorgelès, André Billy, qui est un résistant gaulliste, qui ensuite est devenu un chroniqueur littéraire au Figaro, Léo Larguier, bon, qui est un poète beaucoup moins connu, La Grande Colette, et Francis Carco. Francis Carco, qui était un... que Caragon et Elsa avaient connu antérieurement et dont ils étaient très proches. Et donc Elsa a obtenu donc le prix Goncourt comme on l'a dit déjà. Seulement on a tout de suite minimisé l'importance de ce prix, ben déjà parce que l'Académie était pas au complet. Puis ensuite, on a dit, oui, ben c'est une reconnaissance aux Russes, hein, bon, Stalingrad, et puis aux communistes, parce que quand même les communistes ont joué un certain rôle dans la résistance. Donc ça l'a blessée, parce qu'elle n'a pas été reconnue pour son travail littéraire. Et récemment, Pierre Assouline a écrit un livre qui est une histoire du Goncourt, D'ailleurs, moi, j'en ai entendu quelques épisodes sur France Culture. C'était l'année dernière, je crois. Et il affirme que le prix a été attribué sous pression des circonstances à une femme d'origine russe et communiste. Donc cette légende d'Elsa, elle va se perpétuer. On a donné le prix. C'est un recueil de nouvelles, c'est pas un roman, etc. Enfin voilà. Ça va beaucoup la blesser. Et ça va expliquer aussi les ouvrages suivants dont on parlera.
Est-ce qu'il n'y avait pas aussi une dimension pour les concours de se racheter une conscience en...
Oui, peut-être aussi, oui.
En plus.
Oui. Mmh. Oui, non, mais c'est sûr que toutes ces... Enfin, on sait, par exemple, que toutes ces grandes institutions, je pense aussi à l'Académie française, bon, Maurras, par exemple, était académicien français. Je crois d'ailleurs qu'il a été... Il y en a quelques-uns comme ça qui ont été destitués, quoi. Enfin... Et c'est vrai que ces grandes institutions, qui obligatoirement sont anciennes, donc elles sont victimes de la tradition, et bon, elles sont peu enclines au changement, quoi. Ça, c'est... Et pendant la guerre, ça, c'est sûr qu'après l'occupation, ça s'est vu cruellement, quoi, quand même. Hein. Bon, alors, les activités d'Elsa, à partir du 4 mai 45, elle donne des chroniques dans une revue qui est proche du Parti communiste qui s'appelle Action. Et dans ces chroniques, elle tranche avec l'euphorie de la libération, hein, tout va changer. Et justement, elle émet des doutes, des réserves, une certaine tristesse, quoi, une certaine déception et un petit peu peut-être aussi cette nostalgie de la fraternité dans le combat qui a fait penser aux vainqueurs, hein, que, tout allait changer, quoi. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte, donc, qu'Elsa publie le premier volume d'un diptyque, hein, il y aura deux romans, qui s'appelle Anne-Marie, hein, c'est le nom d'un des personnages dont on va reparler. Et ce premier volume, ce premier roman s'appelle « Personne ne m'aime ». Il vient d'ailleurs d'être édité au temps des cerises. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce roman ? C'est un petit peu le... Elsa va être poursuivie, ça on l'a dit et redit, va être poursuivie toute sa vie par Maïakovski. Un Maïakovski qui est tout de même l'image... De l'artiste, qui rêve de s'insérer dans l'histoire, de transformer le monde, et puis qui finalement est victime, quoi, de ce monde. Comme le sont d'ailleurs beaucoup d'artistes, même aujourd'hui des gens célébrés qui veulent rien transformer du tout, mais qui indirectement sont des victimes, quoi, hein, qui se suicident, qui, etc., etc. Et donc, dans ce roman, on a un personnage féminin, donc c'est une transposition du masculin au féminin, une jeune actrice de cinéma célèbre qui s'appelle Jenny Borghese. Et ça part d'un constat extrêmement pessimiste, puisqu'elle dit de son roman que le thème, c'est le fond de l'affaire, c'est ce qu'est la vie, une escroquerie. Donc on retrouve tout de même l'Elsa qu'on a rencontrée depuis le début, depuis ses premiers écrits, avec ce fond de tristesse fondamentale. Et donc l'histoire elle est simple, hein, c'est Anne-Marie qui est un personnage d'une femme d'origine bourgeoise, hein, elle ressemble assez fortement à Elsa. Et les familles ont une relation avec une autre famille, donc les Borghese. Et la petite Jenny, elle a 10 ans de moins qu'Anne-Marie. Et entre elles, se noue une relation d'amitié très forte, un peu protectrice d'ailleurs de la part d'Anne-Marie, puisque c'est elle qui est née, elle l'a connue toute petite, etc. Et donc, l'ensemble s'appelle Anne-Marie, Personne ne m'aime, donc c'est le premier roman, et le deuxième va s'appeler les fantômes armés, et là il aura comme personnage principal, comme protagoniste, il aura justement Anne-Marie. Ce personnage d'Anne-Marie. Voilà. Alors c'est donc la deuxième héroïne. Une deuxième héroïne, Inaki, à côté de Jenny Borghese, Anne-Marie. Elle devint le personnage principal du roman suivant, Les Fantômes Armés, et je donnais aux deux romans le titre général d'Anne-Marie. Voilà comment Elsa donc s'explique. Alors, Jenny, c'est un personnage, quand on lit le roman, bon, elle mène une vie fastueuse, bon, c'est une grande actrice de cinéma, enfin, le cinéma d'avant-guerre. Elle tourne aux États-Unis, elle vit dans un appartement somptueux à Paris. Elle est entourée de toute une cour d'amoureux ou de gens serviles qui veulent profiter d'elle, de son argent, etc. Et justement, elle tient des propos par rapport à la richesse et à la pauvreté qui sont pas inintéressants.
Quand je vois des gens pauvres, j'ai honte et j'aimerais être comme eux. Quand je vois les riches, je les déteste. J'ai envie d'être plus riche qu'eux et j'ai tout aussi honte.
Voilà, donc elle va être, c'est une actrice qui va être alors à la fois adulée, et à la fois détestée, parce que, bon, ben, disons qu'elle se situe à gauche, quoi. Donc, elle va avoir cette double appartenance, hein. On est à la veille de la guerre. Et elle est mal vue de la droite bien pensante, parce que, bon, effectivement, elle soutient, par exemple, à plusieurs reprises, on a des propos de ce côté-là, elle soutient, par exemple, les républicains espagnols, hein. Finalement, cette Jenny qui est adulée d'un certain côté, elle répète tout au long du roman ce qui va devenir le titre du roman, ben, personne ne m'aime. Et c'est un propos qu'on a retrouvé en permanence déjà, hein, je pensais à Bonsoir Thérèse, qu'on retrouve en permanence dans l'œuvre d'Elsa. Et elle tient justement des propos à propos des gens, hein, ce que sont les gens. Dont on ne voit que le dos.
Connais-tu ces gens où on ne voit rien d'autre que des dos ? Il n'est même pas sûr qu'il ait jamais existé des sourires, des regards. Il n'y a que des dos. Des dos.
Et alors Anne-Marie, qui dans ce premier roman est un petit peu l'aînée, bon, qui lui remonte le moral, qui la rassure, etc., elle lui dit qu'elle est tout de même entourée d'amoureux, qu'elle a beaucoup de chance, etc. Et là encore, Jenny a des propos extrêmement désabusés sur ses amoureux.
Ces amoureux dont on ne veut pas, ils vous sont nécessaires comme les quatre murs autour de vous, comme le toit au-dessus de la tête, comme le pain quotidien.
Et à la fin de la première partie de Personne ne m'aime, Jenny se suicide. Et c'est là où on retrouve effectivement l'analogie avec Mayakovsky. Et Elsa s'explique, alors dans la préface donc des œuvres romanesques croisées, hein, où elle est revenue sur son œuvre, elle s'explique justement sur l'état d'esprit qui l'a conduite à écrire ce livre. Alors là, ça nous donne une clé qui est intéressante pour le lire.
Le monde de la confiance et de l'amitié s'écroulait autour de nous. Et je butais à chaque pas contre une haine solide et dure, faite de fantasmes, de légendes, de sottises et de malfaisances. Le bonheur commençait à se retirer de nous comme la mer, et cela trop tôt, avant l'heure du reflux naturel. Je me sentais sur un banc de sable dès 1944.
Ce roman aurait pu prendre un autre virage, puisque Louis Jouvet, de retour de... Je crois que Jouvet s'était exilé au Brésil pendant la guerre. Louis Jouvet, donc, à son retour, va demander à Elsa d'écrire une pièce de théâtre. Mais, en fait, le projet n'aboutira pas. Et donc, Elsa est un auteur dramatique qui ne s'est pas pleinement réalisé. Et voilà pour Personne ne m'aime. Et bon, ensuite on va parler, ouais, du procès de Nuremberg, hein, puisqu'elle a assisté
On va peut-être faire une pause musicale.
Oui, on va faire une pause musicale.
Je vous propose de la faire avec Francis Carco, qui a écrit pas mal de romans, mais il a aussi écrit quelques chansons, dont certaines sont restées, ont traversé les années, et même aujourd'hui, vous allez voir que sa chanson tendre, je sais pas exactement la date de l'écriture du texte, mais interprétée-là par Monique Morelli sur une musique de Jean Larmania, est une belle œuvre.
Comme au beau jour de nos 20 ans, par ce clair matin de printemps, j'ai voulu revoir tout là-bas, l'auberge au milieu des lilas. On entendait sous les branches les oiseaux chanter dimanche, et ta chaste robe blanche paraissait guider mes pas. Tout avait l'air à sa place, même ton nom dans la glace, juste à la place où s'efface, quoi qu'on fasse, toute trace. Et je croyais presque entendre ta voix tendre murmurer, viens plus près. J'étais émue comme autrefois dans cette auberge au fond des bois. J'avais des larmes plein les yeux et je trouvais ça merveilleux. Durant toute la journée, après tant et tant d'années, dans la chambre abandonnée, je nous suis revus tous deux. Mais rien n'était à sa place, je suis restée tête basse, à me faire face à face dans la glace, la grimace. Enfin j'ai poussé la porte, que m'importe, hey, Nini, c'est fini. Pourtant, quand descendit le soir, je suis allé tout seul m'asseoir sur le banc de bois vermoulu où tu ne revins jamais plus. Tu me paraissais plus belle, plus charmante, plus cruelle qu'aucune de toutes celles pour qui mon cœur a battu. Et je rentrais l'âme lasse, chercher ton nom dans la glace, juste à la place où s'efface, quoi qu'on fasse, toute trace. Mais avec un pauvre rire, j'ai cru lire, après tout, on s'en fout.
Voilà, donc la chanson tendre de Francis Carco par Monique Morelli. Et on retrouve nos invités de Salaette pour évoquer Elsa Triolet dans les années 45-49.
Voilà, donc Elsa, pour revenir à une activité journalistique et événementielle, Elsa va couvrir pour les Lettres françaises entre le 21 novembre 1945 et le 23 février 1946, le procès de Nuremberg. Et de ce procès de Nuremberg découlera un roman, enfin qui sera quand même assez marqué par cette cette déception, ce désenchantement qu'Elsa va éprouver. Et ce sera donc le deuxième volume, Les fantômes armés, donc qui reviendra sur l'après temps de la résistance et puis toute cette confusion qui s'est établie. Alors Maria va lire un extrait des très très longs comptes rendus qu'Elsa a fait, et cet extrait s'appelle, l'article s'appelle La valse des juges.
Le procès de Nuremberg aurait pu être l'arme massue contre le nazisme, une aide immense pour la dénazification des esprits. Nous, nous sommes enlevés, nous-mêmes, cette arme. Car ce procès est-il utile à la dénazification du monde ? Non, puisqu'il donne à ces hommes rompus à la propagande une chance de disculper leur idéologie, puisqu'il donne aux nazis l'espoir que tout n'est pas perdu, même si à la fin du procès, ces excuses-là sont fusillées.
Ces accusés-là sont fusillés.
Oui. S'il est possible de traîner en longueur les explications, on aura peut-être le temps de mieux s'organiser, de se cacher et, qui sait, de recommencer. Il se trouvera aussi des âmes charitables pour écouter les explications psychologiques d'un Chirard et tout comprendre, n'est-ce pas, tout pardonner ? Si bien que le crime nazi deviendra bientôt un crime occulte et que les juges ne seront plus que d'horribles bourreaux barbares. Et quelle belle occasion pour ces hommes de semer la bisbille entre les alliés. Diviser pour régner, vieille sagesse. On me dira de loin de semer la bisbille des alliés. Ce procès a démontré que les gens de la loi étaient bien mieux faits pour s'entendre que les diplomates et que cette idée portera ses fruits. Les juristes des quatre nations s'entendent parfaitement bien. Le travail en commun semble avoir le pouvoir de sanctifier les rapports les plus difficiles. Et des travaux en commun, même sur la bombe atomique, qui sait ? D'accord, les savants qui se pencheraient sur elle, ensemble. En tout cas, j'ai rapporté de Nuremberg la conviction d'avoir plongé un regard dans un abîme sans fond.
Voilà, une petite précision, le dénommé Chirard était donc en fait le chef des jeunesses hitlériennes. Et il a été condamné à 20 ans de prison après le procès. Et donc il est sorti en 65 et il est décédé en 1974. Voilà. Parce que bon, c'est quand même pas un personnage extrêmement connu. Alors, Pour Elsa, donc, comme on l'a bien senti là dans son texte, il y a quand même un travail de justice qui n'est pas fait à Nuremberg, hein, et qui va justement permettre tout de même à certaines idées, voire même finalement de s'en tirer, hein, qu'on se souvienne, nous on est bien placés ici, le procès Barbie, hein, c'est combien d'années après justement ces atrocités. Alors, il y a un roman, effectivement, qui n'est pas très gai, hein, c'est pas une comédie. Ce sont Les Fantômes Armés, donc deuxième volume d'Anne-Marie. Et donc, il nous reste plus justement que la fameuse Anne-Marie, qui était la deuxième héroïne de Personne ne m'aime, donc cette femme plutôt bourgeoise, hein. Que rien ne prédestine à la résistance et qui va devenir le personnage principal des Fantômes Armés. Et Elsa va s'expliquer. Alors avant de s'expliquer sur son propre parcours, parce qu'évidemment Anne-Marie a quelque chose à voir avec elle, elle va s'expliquer sur les causes et notamment sur ce procès de Nuremberg et ce qu'il a, en quoi il a pu inspirer. Ce roman.
Il y a eu, pendant que j'écrivais ce roman, mon voyage en Allemagne où j'ai assisté au procès de Nuremberg. Le reportage publié en 1946, La valse des juges, donne encore une fois le paysage dans lequel je vivais à cette époque et qui m'a fait écrire plutôt ceci que cela. Je crois qu'après vous avoir parlé de mon premier voyage en Allemagne, vous montrez cette valse-là, est en même temps éclairée comment la réalité, lorsqu'elle est bouleversante pour l'auteur, passe ensuite dans son écriture romanesque. Comment elle nourrit et porte le roman. Cette réalité peut aussi bien être synchrone à l'écriture ou se placer dans le passé. Elle peut être en jeu elle-même, directement ou par l'intermédiaire de ce qu'elle a fait naître seulement au bout du conte dans l'être romancé. De longues années plus tard, le romancier témoigne de son temps ou témoigne de ce que son temps a fait de lui. Romancier.
Alors les Fantômes Armés traitent de plusieurs thèmes qui seront repris dans les romans à venir et surtout dans celui dont on parlera ensuite, L'inspecteur des ruines. On y rencontre ce qu'Elsa appelle des morts vivants. sans parler de tous ces paysages qui sont transformés en ruines justement. Hein, les prés fleuris ayant été transformés en des champs de ruines. On va le passage de Génie et Anne-Marie. Ce qui est intéressant de lire ces deux romans, c'est que Génie, le premier, Personne ne m'aime, se situe avant guerre, et les fantômes armés se situent après guerre. Et finalement, paradoxalement, il y a une certaine dans Génie quand même qui lutte, quoi, qui se bat, qui bon, évidemment, bon, personne ne l'aime. Bon, elle se suicide, mais il y a tout de même un espoir que des choses peuvent changer. Et puis, dans les fantômes armés, donc qui correspond à l'après-guerre, justement, on retombe dans ce vide, quoi, dans cette société qui semble ne plus avoir d'objectif. Et dans la guerre, Elsa fait l'éloge de la résistance, de la fraternité, et par exemple dans les prisons de Fresnes, sur lequel elle fait une courte réflexion.
La force immense de ceux qui étaient enfermés filtrait à travers ces murs, à travers ces portes, vers Paris, vers la France, et j'étais des leurs. Personne n'aime personne. Pauvre Jenny, elle n'a pas connu l'union à la vie, à la mort, avec des êtres inconnus et proches, comme votre propre cœur.
Et plus loin, justement, elle écrit encore.
Oh, fraternité, des années héroïques de la résistance, elle existait, elle était la plus forte.
Et la question que pose Elsa dans Les fantômes armés, c'est la suivante. Est-ce que ce qui est né de la guerre pourra survivre à la paix, justement, cette fraternité, cette union dans la lutte?
La guerre n'était qu'une parenthèse. Nous sommes déjà les anciens combattants. Les cœurs sont entrés dans leur carapace. Mes mains tâtonnent dans le vide sans rencontrer une main amie. Aimons-nous les uns les autres? Mais puisqu'on s'est aimé en face de l'ennemi, c'est donc que c'est possible de s'aimer. Faut-il vraiment que l'on s'aime contre quelque chose? Ne pourrait-on pas s'aimer pour? Je ne sais pas, mais je n'ai jamais eu aussi peur.
Alors, dans Les fantômes armés est posée la question de la destinée individuelle qui est transformée par l'histoire, par la politique. Alors ça, c'est un thème qui est essentiel. Après 5 années de guerre, Anne-Marie, c'est là où elle épouse un peu le destin d'Elsa. C'est donc quelqu'un qui est parti avec son mari. Bon, que c'est une femme qui ne travaille pas, qui accompagne son mari qui a une haute situation. Ils ont 2 enfants et ils vont dans les îles. Et souvenez-vous qu'Elsa est allée avec André Triolet à Tahiti. Et puis ils désirent, ben, essentiellement pour l'éducation de leurs enfants, revenir sur Paris, et c'est là qu'Anne-Marie, bon, va rencontrer Génie, va retrouver Génie, puisque elles se connaissent depuis l'enfance de Génie, et qu'elle va basculer, mais suite à des rencontres, elle va basculer dans la résistance. Et elle retrouve, parce qu'évidemment, la guerre sépare tous ces gens-là, et quand elle retrouve son mari, ben, elle rencontre un collaborateur. Et elle qui a fait de la résistance est plus séparée de lui par cette prise de position en divergence que par la maîtresse que lui a pris entre-temps. Et ça, c'est cette irruption de l'histoire dans l'œuvre d'Elsa Triolet. Ces deux romans là, ça, on ne peut que recommander de les lire. Ils sont extrêmement forts. Comme celui dont on parlera ensuite, qui est l'inspecteur des ruines. Voilà. Alors, il y a deux types de personnages qui apparaissent dans ce roman et qui sont liés justement à des paysages en contrepoint. Alors, d'un côté, on a l'Allemagne et l'Autriche qui sont hérissés de châteaux gothiques, avec leurs armures et leur mobilier moyenâgeux. Et à l'été 1945, ce qu'il convient de dire, c'est que le général Delattre de Tassigny a invité Aragon et Elsa à son QG sur le lac de Constance. Et donc, ils font à cette occasion la connaissance d'un général, le général de Montsabert, et qui va servir à Elsa de modèle pour le personnage de Célestin Champfort. Et Célestin Champfort, c'est déjà un personnage qu'on a rencontré dans Les Amants d'Avignon. C'était un résistant gaulliste. Sauf que, en fait, celui qui a servi de modèle dans Les Amants d'Avignon et celui qui sert de modèle dans les Fantômes armés, en fait, c'est pas le même personnage dans la réalité. Mais peu importe. Et dans les Fantômes armés, ce personnage de Célestin Champfort, c'est un homme dérouté, qui est dérouté par l'après-guerre. Dans l'après-guerre, bon, il comprend plus le monde dans lequel il vit. Et entre parenthèses, lors de leur voyage en Allemagne, ils visitent le fameux château de Sigmaringen, là où Pétain, accompagné par Céline d'ailleurs, se sont réfugiés. Et puis alors, ce qui s'oppose dans le paysage, c'est le paysage, hein, la ville préférée, la ville d'Elsa, c'est évidemment la ville d'Avignon, de Villeneuve, et là, elle fait un bel éloge sur la langue d'oc, hein, puisqu'Avignon, c'est la ville de la langue d'oc.
La langue d'oc était la langue de l'amour. Pour l'apprendre, il fallait y vivre. La pierre, le vent, dans les arbres échevelés, dans le désert de la garrigue, le soleil, les ronces, la lavande et l'air.
Et la clé du personnage d'Anne-Marie, qui est en fait, je pense, la clé d'Elsa, quoi, hein, c'est ce rapport à la guerre et ce que la guerre a apporté à Elsa, quelle transformation elle lui a. Et c'est une belle c'est une belle analyse de, justement, de ce qu'est la vie, quoi, de ce qu'elle peut amener de transformation pour les individus qui veulent bien se transformer, tout au moins.
La guerre, l'occupation m'ont jeté dans une vie pour laquelle j'étais probablement plus faite que j'en avais l'air. Il doit y avoir beaucoup d'hommes et de femmes qui ne vivent pas leur destin. La famille, le milieu, les ont mis sur des rails. Et si un accident ne provoque pas le déraillement, ils continuent à rouler devant eux, sans se douter qu'on peut vivre à travers champs. Va la guerre, l'occupation, j'ai déraillé.
Voilà, donc on va croiser, bon, on va pas raconter tout le roman, mais on va croiser donc un certain nombre de personnages. Ben qui sont un peu tous paumés, quoi. Donc on va croiser par exemple un personnage, Yves Fonterolles, qui lui a été vraiment un combattant armé et bon, ben il sait plus quoi faire à la fin de la guerre, donc il a envie de continuer, et donc on a toute cette galerie de personnages et aussi de motivations, hein. On peut peut-être lire, là, parce qu'on en parlait tout à l'heure en référence avec en particulier la situation actuelle, hein, des jeunes, par exemple, qui vont s'engager pour des causes sur ce qu'elle dit, là, à 20 ans.
À 20 ans, on ne croit pas à la mort. C'est un jeu formidable que de risquer sa vie sans croire à la mort. Ils n'avaient pas de peine à être héroïques. Et tout leur était permis pour la bonne cause. Maintenant, la cause n'est plus. Ils continuent à croire que tout leur est permis.
Et elle ajoute aussi, c'est tragique, la révélation que certains ont d'être eux-mêmes. Maintenant, ils s'imaginent être des croisés. Et il leur faut une croisade coûte que coûte pour ne pas périr d'ennui, pour donner leur mesure, le prétexte de la croisade. On en parlera une autre fois.
Je crois qu'on va en parler ces temps-ci, parce que dans ce contexte actuel, je crois qu'il doit y en avoir, qui doivent avoir cet esprit-là.
Oui, non, mais c'est sûr. Et puis alors aussi, donc elle évoque, parce qu'il y a beaucoup de personnages, hein, beaucoup de choses qui se passent dans ce roman, à la fois cette sortie des collaborateurs, hein, qui vont revenir au premier plan, hein, bon, ben, on voit par exemple, quelques années après, un Papon, par exemple, qui se retrouve préfet de police, ministre. Enfin bon, c'est un peu toute cette atmosphère, voilà, dont Elsa parle.
Je ne veux pas vous bousculer, mais il nous reste 7-8 minutes. Vous aviez prévu de parler d'un troisième livre.
Voilà, on va faire une pause maintenant.
Non, je veux bien, mais...
Non, alors...
Si c'est juste, on enchaîne.
On enchaîne, alors. Alors, il y a cette Europe, c'est le dernier roman, donc c'est l'inspecteur des ruines, qui, enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup ce roman. Donc, le personnage principal s'appelle Antoine Blond. Et Elsa, alors si on revient au prix Goncourt, Elsa a été donc, comme on l'a dit, hein, frustrée de que son œuvre ne soit pas mise en valeur. Et elle a décidé que la complicité de Carco, on revient à Carco, de publier l'inspecteur des ruines sous le nom d'Antoine Blond. Elle refait un coup à la Romain Gary, hein, Émile Ajar, Romain Gary. Et malheureusement, de Noël... La responsable des éditions de Noël refuse l'inspecteur des ruines parce qu'elle trouve que c'est un mauvais roman. Donc tout ça, ça prend du retard parce que Carco, il est d'accord, hein, pour être dans la combine. Et donc le roman va paraître aux éditeurs français réunis, qui est une édition proche du Parti communiste. Mais évidemment, il va paraître avec du retard. Et il va paraître, je crois, le 3 décembre 1948. Et donc c'est trop tard pour le Goncourt. Donc, c'est un coup raté, quoi. C'est un coup manqué. Et voilà, c'est dommage. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce roman et d'assez pathétique d'ailleurs, c'est elle dit de son personnage Antoine Blond que c'est une gueule cassée. Et effectivement, quand on lit ce roman, ce qu'il y a d'extrêmement saisissant, c'est un petit peu un personnage. Un personnage errant, il sait absolument plus quoi faire, il fait plein de métiers, il s'ennuie. Et puis, on lui propose un boulot qui est d'aller inspecter les ruines dans l'Allemagne occupée et de faire un rapport, bon, sur les différentes ruines. Et c'est un roman qui est extrêmement triste, extrêmement nostalgique. Ben c'est un homme cassé, quoi. C'est un homme qui est dévasté, qui est complètement ravagé. Et Elsa va justement faire une comparaison entre les ruines dont elle est elle-même habitée et justement les ruines finalement de la guerre. Hein, on va peut-être lire cet extrait là pour terminer.
Les ruines dont j'étais habitée faisaient que la démolition humaine que les hommes portant une blessure ou la mort dans l'âme m'attiraient, me fascinaient. Il devait y avoir un joli nombre de ruines humaines de par le monde. L'âme est chose délicate et la guerre, avec ses variantes, la bouscule sans ménagement. Les hommes ruines vivent parmi nous sans qu'on puisse les distinguer des autres, des intacts. Rien ne les signale à l'attention des hommes bien vivants. Est-ce parce que l'homme démolit seulement en dedans et en tout pareil à un vivant, que personne ne lui tend la main comme on le fait pour celui qui a des béquilles ou une canne blanche? Avant de devenir ruine, cet homme s'était battu, avait souffert à côté d'autres hommes, avec la paix. Et pour peu que la guerre se soit amusée à lui prendre ce qui a été sa vie avant, pour peu qu'au retour chez lui il ne retrouve rien ni personne, et la guerre aura parachevé son œuvre par la solitude. Ainsi, la ruine d'un homme sera parfaite. C'est d'un tel homme que j'ai fait le héros de l'inspecteur des ruines.
C'est un très beau roman, hein, qui est à lire absolument.
Ah, pour terminer. Cet homme ruine, ça fait penser aux déportés, non?
Oui, bien sûr. Oui.
Ceux qui sont revenus.
Oui, ceux qui sont revenus, oui. Et qui sont effectivement. Oui. Et alors, une chose importante en ce qui concerne sa relation avec Aragon, c'est que quand on parle des œuvres romanesques croisées, il y a une scène qui est très très belle où Antoine Blond, donc, va se trouver un moment dans un hôtel où il va descendre dans la chambre d'Hoffmann, le romantique allemand, qui est attenante à un théâtre. La chambre, c'est en fait la loge, une loge du théâtre. Ça s'appelle d'ailleurs la loge des étrangers. Et plus tard, alors bien plus tard, 10 ans après, hein, dans la Semaine Sainte, Aragon va amener à Bamberg, hein, ça se situe à Bamberg en Allemagne, son personnage, le maréchal Berthier, qui est également un autre homme ruine, parce que la Semaine Sainte, ce sont les partisans de Louis XVIII qui, pendant les 100 jours, fuient devant la remontée de Napoléon. Et ces hommes sont complètement perdus, ils savent plus où ils en sont, dont le fameux peintre Géricault, qui est un des personnages, un des protagonistes du roman. Et donc, encore une fois, c'est Elsa qui précède, hein, comme on l'avait dit pour le Cheval Blanc et Aurélien, c'est Elsa qui précède Aragon, enfin, ou qui l'inspire. Donc, elle n'est pas que la muse pour Aragon, mais elle est... voilà. Et donc, avec ce roman, donc là, on sort complètement de l'évocation de l'année 39-45, puisque la prochaine fois, on verra l'activité militante qui est importante, hein, en faveur du livre notamment. Et puis l'écriture d'un roman qui est plus un roman, où elle tâte un peu de l'émancipation, qui est le Cheval Roux, à propos de la bombe atomique, enfin d'événements contemporains.
On a à peu près terminé. Dis-nous un mot de Jo Bousquet dans tout ça. On écoutera peut-être une chanson à partir d'un de ses textes.
Donc, Jo Bousquet, c'est ce personnage qu'Elsa... Elsa a établi une relation très très forte avec Jo Bousquet, qu'ils ont rencontré donc à Carcassonne au début de... Enfin, un peu dans la débâcle, là, début 40, là, avant qu'ils arrivent à Nice et Villeneuve-les-Avignon, etc., où ils ont également rencontré Pierre Segers. Et Jo Bousquet, donc, c'est ce personnage tragique, puisqu'il a été blessé à la guerre de, je crois que c'est en 17 ou 18, et il est resté invalide, hein, il a eu une blessure à la colonne vertébrale. Il a vécu toute sa vie jusqu'en 1950, ou enfin début des années 50, dans une chambre noire, dont il vivait volet clos, il voulait voir personne, etc., mais il a eu une relation très très forte avec Elsa. Et c'est un poète qui est, je trouve, un peu méconnu, mais qui a écrit beaucoup de poèmes, et notamment des poèmes d'amour et des poèmes érotiques extrêmement, extrêmement forts.
Bon, on n'en dira pas plus, parce que si on veut prendre le temps d'écouter la chanson, c'est Le Déshérité, mis en musique et interprété par Véronique Pestel. Je vous remercie, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Ce sera la 12e consacrée à Elsa Triolet.
Bonsoir à tous.
À peine son visage, les malheureux n'ont l'air de rien. Son père dit qu'il n'a plus d'âge, sa mère dit je l'aimais bien. Des jours brisés qu'il se rappelle, il n'est pas sûr qu'il ait souffert. Tant sa douleur est naturelle, son sourire est mort l'autre hiver. Il pleut des jours, le jour en pleurs, l'avril périt de ses parfums, et comme lui, les regrets meurent, cette onde à mort. S'il fut quelqu'un, cet on d'un mort, s'il fut quelqu'un. Ils iront le voir à l'asile. Il a des frères, il a des sœurs. jouer au sou dans sa sébile. Nul ne peut rien à son malheur. S'il a vécu comme personne, souvenez-vous par charité qu'un monstre attend qu'on lui pardonne l'affreux bonheur d'avoir été.
Thank you.